Les livres ont la parole, une émission mensuelle chaque deuxième mercredi du mois de 16h30 à 18h. On y parle de livres et de ceux qui font les livres, auteurs, imprimeurs, éditeurs, libraires, lecteurs. Une émission proposée, préparée et présentée par Jean Daroux sur Fréquence Mistral.
Bonjour, donc on se retrouve sur Fréquence Mistral pour l'émission « Les livres ont la parole ». Et donc on reçoit aujourd'hui quelqu'un qui écrit et qui anime des ateliers d'écriture, donc une espèce de double fonction dans l'écriture. Donc c'est Dorothée Volut qui nous vient du Haut-Var. Voilà, bonjour Dorothée.
Bonjour.
Et donc on va lui demander de nous parler un petit peu de d'où elle vient, pourquoi elle s'est mise à écrire et pourquoi... Elle a été amenée à animer des ateliers d'écriture dans différents endroits. Voilà, on écoute un tout petit peu de musique pour démarrer, le temps de respirer.
Tout au long de la vie qui pique, on prend des beignes, à vouloir toucher les filles électriques, des sacrées châtaignes. On retrouve couché par terre l'effet hypercute. Les filles sans en avoir l'air, ça électrocute. Tout au long de la vie qui pique, on veut s'évader. En touchant pour le physique, les filles dénudées. On se retrouve alors par terre, triste et tout nu. En amour de toute manière, on prend du jus. Tout au long de la vie, c'est sûr, on s'abîme le cœur. À vouloir mettre la main sur les filles conducteurs. La mélancolie des passions nous chloroforme. Faut refaire toute l'installation, rien n'est conforme. Tout au long de la vie qui sert, on s'égratigne. Au mystère des filles de fer, sur toute la ligne. Ou alors faut s'isoler comme dans un linceul. Et jouer de sa guitare tout seul sous les tilleuls.
Avec Dorothée Volut, qui est notre invitée aujourd'hui dans l'émission Les Livres ont la parole. On a eu un petit pédalage de démarrage, un petit peu, mais parce qu'il y avait un micro qui ne marchait pas, mais tout va bien. Maintenant, vous allez nous entendre correctement. Alors, Dorothée, vous écrivez. Alors, vous n'êtes pas de celles qui ont commencé à écrire quand c'était tout petite, dans leur chambre, faire plaisir à leurs parents, ou au contraire, se cacher de leurs parents. Ça vous est tombé dessus un jour, comment ?
Ça m'est... Bon... C'est vrai que quand même, j'ai écrit quelques poèmes quand j'étais petite. Oui. Oui, le poème de l'automne, du printemps, de l'hiver.
Ça, c'est pour la fête des mères.
Non, c'était pour Noël.
Pour Noël.
Oui, d'accord. Noël, parce que c'est là où il y avait le plus de monde à table. Donc, on pouvait distribuer le plus de poèmes possible.
Ah, d'accord. Okay.
Un poème dans chaque assiette.
Ah, formidable.
Illustré et tout ça.
Bon.
Après, il y a eu une grande période de silence. Et ben, l'écriture est revenue... Est revenu au cours de mon parcours théâtral.
D'accord. Voilà, mais donc vous avez fait du théâtre.
Voilà, j'ai fait du théâtre. J'ai une formation de scénographe.
D'accord.
Et puis, sortant de l'école qui m'a appris ce métier, on était un petit groupe de jeunes gens à avoir envie d'expérimenter la structure d'une compagnie de théâtre. Donc, on a monté un collectif de théâtre dans lequel je faisais et de la scénographie et de la mise en scène. Et puis, progressivement, je me suis même mise à jouer aussi un petit peu. Mmh. Et puis, je ne sais plus exactement comment ça s'est fait. Mais en tout cas, j'ai toujours eu un goût pour prendre des notes. De toute manière, le stylo était toujours dans ma main, que ce soit pour écrire ou pour dessiner. Et voilà, il y a eu un jour où c'est une amie, je crois, qui m'a proposé qu'on s'essaye un exercice d'écriture à deux.
Ah, donc, c'était déjà un atelier d'écriture quasiment.
Ah oui, finalement, oui, j'avais pas réfléchi, oui. Mmh. Et puis en fait, au bout de 2 semaines, j'ai eu besoin d'écrire toute seule. Mmh. C'était presque insupportable, la présence de l'écriture de l'autre dans la mienne. Mmh. Et voilà. Donc j'ai senti que là, il y avait un espace de solitude qui me réclamait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, j'ai commencé à y consacrer un peu de temps. Et puis progressivement, c'est ça qui a pris le pas sur mes activités de théâtre.
Carrément. Donc ça a pris beaucoup de temps, cette écriture, ce travail d'écriture. C'est devenu un travail ou c'est une nécessité?
Non,
quand c'est un flot.
C'est de l'ordre de la nécessité. Ouais. De l'ordre de la pulsion même, mmh. On peut dire. Ouais. Et puis après, enfin, c'est-à-dire ce qui s'est fait assez rapidement en même temps, c'est qu'on m'a proposé d'animer, des ateliers d'écriture.
D'accord.
Ce que j'ai fait le choix assez rapidement dans ma tête, suivant mon intuition, puisque c'était pas très raisonnable d'un point de vue économique, parce que j'étais intermittente, donc on peut dire que je gagnais pas bien ma vie, mais en tout cas régulièrement, oui. J'avais une sécurité quand même financière.
Donc l'abandon du théâtre, de la scénographie, de la mise en scène et...
Oui.
Pour l'écriture.
Pour l'écriture et l'animation d'atelier d'écriture, oui.
Ouais. Les deux sont faits.
Il y a eu un moment donné où ça n'arrivait plus à cohabiter, en fait. Parce que l'écriture me demandait un temps de solitude très grand et me demandait de réduire mes frottements avec les autres. et voilà. Et en plus, moi, j'étais dans une expérience de théâtre très collective. Voilà. C'était ça qu'on défendait aussi, enfin, qu'on avait envie de vivre. Du coup, ça cohabitait pas du tout. Donc, il y a même eu un moment de crise, quoi, où aussi j'ai dit, je dois faire un choix. Maintenant, j'arrive plus à modérer justement mon besoin du collectif, qui, je pense, petit à petit est revenu par l'atelier, en fait, qui est aussi.
Pour vous, au départ, l'écriture, c'est nécessairement dans la solitude. Et vous parliez de frottement avec les autres, ils deviennent gênants dans ce travail, c'est-à-dire si les autres sont trop présents.
À l'époque, ça l'était, parce que je ne savais pas ce que je fabriquais et j'avais surtout besoin d'être hors du jugement des autres et du regard des autres. Je n'arrivais pas à gérer cette chose-là.
Pourtant, l'idée d'écrire, c'était aussi écrire pour les autres ou pour soi au départ? Parce qu'on a aussi écrire, si on écrit pour être lu, on s'attend au jugement des autres. Pas forcément un jugement, une appréciation. Ouais. On n'aime pas, on comprend, on ne comprend pas, mais il y a forcément l'autre au bout de l'écriture.
Mais pas dans le moment du faire.
D'accord.
C'est-à-dire le moment du faire, pour moi, il est lié à une solitude. Après, il y a un moment où on peut décider de le partager, de le lire ou de le faire lire. Mmh. Voilà. Mais dans ce moment du faire qui, pour moi, commençait, j'avais vraiment besoin que ça se fasse hors d'atteinte, quoi. En tout cas, c'était comme ça pour moi. Puisqu'on parle des débuts, maintenant les choses elles ont évolué. Et au contraire, pour moi aujourd'hui, l'écriture elle est liée au frottement avec les autres, dans le contenu, je dirais. Mais après, dans le moment du faire, l'écriture c'est quand même un certain métier de solitude, il ne faut pas s'illusionner là-dessus.
On n'écrit pas à plusieurs.
Et puis l'écriture c'est plein de moments différents. Il y a le moment où l'écriture arrive, il y a le moment où on relit, il y a le moment où on réécrit, il y a le moment où on laisse reposer, il y a le moment où on reprend les choses qu'on a écrites, il y a une semaine, il y a un an, il y a 3 ans, pourquoi pas.
Alors justement, quand c'est arrivé au début, et il est arrivé quoi comme type d'écriture? Vous êtes mis à écrire quoi?
Moi, c'est de la poésie.
La poésie.
Que j'écris. Mmh. Ouais, et que,
ça a été directement de la poésie?
Que j'écrivais sans le savoir.
Sans le savoir.
Ça n'avait pas de nom, et en fait, l'endroit d'écoute qui s'est ouvert à moi, c'est celui de la poésie, parce que justement ce que j'écrivais n'avait pas de nom, n'était pas facilement registrable. Et le milieu de la poésie qu'on dit aujourd'hui milieu de la poésie contemporaine, c'est celui-là en fait qui m'a permis d'être entendue, publiée, de rencontrer des gens, parce que justement c'est un lieu de recherche en matière d'écriture.
D'accord.
Et moi j'étais complètement là-dedans, voilà. C'était à la fois des choses qu'on aurait pu dire, qu'on aurait pu cataloguer comme du théâtre. Oh, bah, t'écris des monologues. Ah, bah non, là, c'est lyrique. Ah, bah non, mais là, c'est une histoire là, que tu écris. Et comme moi, c'était très variable, voilà. Et puis que j'avais une grande épidermie à l'endroit des catalogues, qu'ils soient Trois Suisses ou La Redoute. Et du coup, la poésie, je trouve est un milieu, même si ça reste un milieu avec aussi ces trucs de chapelle, etc. C'est quand même un endroit où aujourd'hui peuvent s'expérimenter plein d'écritures sans qu'on ait besoin tout de suite de dire qu'est-ce que c'est que tu écris.
En fait. Oui, oui.
Voilà. Donc pour moi, ça correspond.
C'est un milieu assez ouvert, en fait, où il y a beaucoup de formes d'écriture très différentes.
Oui. Et puis, qui peuvent s'essayer aussi par la lecture. La lecture est toujours très importante pour moi. Mmh. Alors, par goût aussi.
Oui, venant du théâtre, voilà. Dire les choses écrites. Voilà. Mmh. Est-ce que, par exemple, quand vous écrivez, ça vous arrive, pour vérifier ce que vous avez écrit, de le dire à haute voix toute seule?
Oui.
Pour avoir les sons, etc. Il y a un travail sur les sons dans l'écriture.
Oui. Pour moi, oui, c'est une... Oui, moi, j'ai... La musicalité et le rythme sont très importants, même si j'écris... Jusqu'à présent, j'ai écrit essentiellement de la prose. Donc, on ne voit pas forcément qu'il y a un travail sonore derrière, mais oui, il est très important pour moi. Oui. Et il y a des choses qui viennent à s'écrire d'abord par le rythme. Et ensuite, je lis ce que j'ai écrit. Ah tiens, c'est ça que j'ai écrit. Mmh. Voilà. Qui se donne d'abord par un rythme et par une musicalité. Mmh. Après, je peux comprendre par palier ce qui s'est passé, comment je souhaite poursuivre. Mais il y a beaucoup de choses qui s'écrivent pour moi par la musicalité.
Mmh. Est-ce qu'on pourrait en écouter un petit bout de la musicalité d'un de vos textes, par exemple? S'il y en a un qui est prêt, hein, comme ça.
Mais j'ai rien préparé, mais...
C'est peut-être mieux que ça soit préparé comme ça. On tombe dessus comme ça vous est tombé dessus.
Alors,
celui-là. Alors, vous ne voyez pas, mais moi je vois, elle tourne les feuilles.
Il y a un document
qui s'appelle.
Je tourne les feuilles d'un petit livre qui s'appelle Alphabet, ça c'est le titre, et qui est publié par un très bon éditeur marseillais, Éric Pesty.
D'accord.
Pesty éditeur qui est installé. Au Panier, à Marseille, depuis 10 ans, et voilà, qui fait des très beaux livres.
Alphabet.
Celui-là, c'est une collection qui s'appelle Agrafé, parce que c'est un livre avec des agrafes, alors certains diront que c'est pas un livre, mais justement, c'est un éditeur qui défend ça comme des livres.
Tout à fait. Donc, un petit bout d'Alphabet.
On reprendra, ayez confiance. Le champ féroce des torrents est une source intarissable. En d'autres termes, la poussière derrière les carreaux élabore une porte de sortie en filet transparent. Ça commence par rien. Des tôles qui essaient de s'ouvrir, ce n'est pas compliqué, c'est difficile. On a aménagé l'espace et le temps. On ne cherche pas l'inutile, on cherche juste, à peine. On entreprend par les mains une recherche qui ajoutera une matière dégradable au réel. On aura beau, on ajoutera. Comment ne pas relire ce contraste? Devenir aveugle plutôt que médisant? S'appeler devant, ranger le balai? Devenir en retard? Devenir être? Devenir enfin? Je n'imagine rien, moi aussi je suis fatiguée des images. L'eau est la seule couleur. Je ne fais pas carrière. Je n'assemble pas de planches pour monter dessus. L'arbre, je le regarde, et les planches, je les pose contre le mur, à l'ombre, pour l'ouvrier qui viendra les prendre demain.
Eh bien, on va écouter un peu de musique, le temps de digérer ce texte.
C'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion.
on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas? Y a des endroits la nuit où les peaux qui vous font la peau sont plus bronzées que nos petits poules beaux. Mais comprenez-moi, la tchè là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y a des taxis qui ont peur du noir. Les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traits de misère? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. C'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, il y a des taxis qui ont peur du noir. Mais comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Ne croyez pas que je sois borné, le genre rétrograde avancé. Je compte parmi les gens que j'aime bien un jeune avocat africain. N'est-ce pas, cher ami?
On se retrouve sur Fréquence Mistral pour l'émission Les Livres ont la parole et on reçoit aujourd'hui l'écrivain et animateur d'atelier d'écriture, Dorothée Volute. Alors, Dorothée, on a donné un petit peu l'origine de votre travail d'écriture. Ce que je voulais savoir, c'est quand vous écrivez, ça vient facilement, vous retravaillez, ça demande de revenir sur le texte, sur les mots, leur assemblage, ou alors ça vient vraiment du premier jet, ou c'est beaucoup de travail?
Ben ça vient jusqu'à présent, parce que là, je traverse une période de jachère assez grande. Hein, on est sur l'assolement.
Donc, il n'y a rien qui pousse.
Jusqu'à présent, oui, c'est des moments où ça vient presque en masse. J'ai toujours un carnet, des cahiers avec moi. Et puis ensuite, il y a beaucoup de relectures et de retravail. De relecture déjà pour savoir ce qui reste, ce que j'ai envie de garder, ce qui me semble être important à écrire. Et puis voilà. Et ensuite, donc il y a aussi le moment de la transcription sur l'ordinateur, qui prend du temps aussi, qui est un moment.
Est-ce que vous écrivez d'abord à la main, a priori, ou directement?
Oui, là depuis quelques années, je suis revenue à la main.
D'accord.
Parce que je sens que c'est par là que ça vient plus. Il y a eu des périodes où, par contre, ça ne venait que par le clavier de l'ordinateur. Mmh. En tout cas, l'outil, c'était important pour que. Voilà. Et voilà. Donc pour moi, oui, le temps de bien sûr, c'est du travail, l'écriture. Mmh. Et pour moi, c'est un temps assez long. Alors c'est pas toujours très confortable, parce que c'est vrai que entre le moment où on écrit et le moment où c'est publié, il y a ben pour moi aussi, hein, il y a du temps, et du coup, parfois, on n'est plus au même endroit au moment où sort le livre. Mmh. Et c'est l'intérêt aussi, je dirais, de tous les éditeurs indépendants qui font des petites choses comme ce qu'on a vu là, les petits livres agrafés, qui permettent.
L'éditeur s'appelle Éric Pestin, ouais, vous le.
Qui permet de sortir des choses pendant que des plus gros ouvrages ou plus coûteux ont besoin de se faire et donc prennent plus de temps. Voilà. Mais à côté de ça, il y a les revues aussi qui permettent aussi de publier des choses qui sont là et on ne sait pas dans quoi ça rentre et on a besoin de les partager, on a besoin que ce soit lu, que ça circule. Parce que le moment où on va lire, par exemple, son texte sur une revue, ça va encore faire avancer le travail d'écriture. Mmh. Parce qu'il y a une distanciation, parce qu'il y a des retours d'autres personnes, parce que.
Est-ce qu'il arrive qu'on ne se reconnaisse pas dans ce qu'on a écrit en disant non, ça, je le renie? Au moment où ça apparaît, ça met tellement un certain nombre de mois ou d'années à apparaître qu'on se dit là, j'aurais jamais dû l'envoyer, ce truc.
Non, j'essaye d'assumer. Ma bibliographie, elle est petite, hein, mais en tout cas, j'essaye d'assumer tout ce que j'ai écrit. En le replaçant dans un chemin, en fait. Mmh. Voilà.
D'accord.
Et que autant je ne sais pas ce que j'écrirai demain, voilà, et ce qui a été écrit hier, avant-hier, participe de ce que j'écrirai demain, même si c'est très différent. Moi, j'ai le goût de ça, bon, la forme n'est jamais indépendante du contenu, mais d'attendre que d'écrire des choses qui me surprennent, quoi, ouais, vraiment qui me surprennent.
Alors, dès le départ, en même temps que le travail d'écriture, il y a les ateliers d'écriture. Quelle était l'idée aussi? Est-ce que ça vous semble complémentaire de ce travail? Est-ce que ça vous rapporte, je sais pas, un effet miroir? Est-ce que ça vous aide à l'écriture? Ou c'était aussi pour aider d'autres, pour partager des choses? C'est quoi un atelier d'écriture, en fait, pour vous?
Déjà, c'était une manière de... c'était aussi une manière de gagner ma vie. Et ça l'est devenu, du coup.
D'accord.
Voilà. De gagner ma vie en faisant quelque chose qui m'intéresse vraiment et dans lequel je me reconnais à l'heure actuelle. Et il se trouve que la première proposition qui m'avait été faite, c'était de travailler, de faire des ateliers auprès de jeunes, d'adolescents. Je crois que c'était un été dans des centres sociaux, du côté de Martigues. Et puis, en fait, la rencontre avec les jeunes et puis comment s'y prendre avec eux pour faire jaillir l'écriture a créé pas mal de résonance avec mon vécu à moi en tant qu'adolescente et par rapport à ce que j'étais en train d'écrire qui finalement était lié à tout ça, à ces moments d'adolescence, d'enfance, d'adolescence. Et du coup, j'ai eu le goût de poursuivre ça assez vite parce que je sentais que c'était un endroit où il se passait des choses importantes et nécessaires aussi, et des choses qui créaient du mouvement. Qui crée de la rencontre, de l'écoute, de la transformation, voilà. C'était un lieu vivant, en fait, voilà. Et du coup, après cette première proposition, moi, je me suis mise en recherche. Enfin, plus ou moins consciemment. On ne sait jamais trop la part qu'on a dans ce qu'on fait. En tout cas, je me suis adressée à une structure, une association à Marseille, dans le centre de Marseille, qui faisait de l'accueil de jeunes en difficulté, de l'écoute, voilà, une équipe de médecins, de psys, d'éducateurs. Et ils ont été intéressés tout de suite pour qu'on travaille sur un projet d'atelier d'écriture. Et voilà, on a mis ça sur pied, et puis 4 mois après, ça a démarré. Là, c'est par exemple un lieu où j'ai bossé pendant 4 ans, et tous les 15 jours, j'avais un échange avec le psychologue qui n'était pas présent à l'atelier, mais avec qui, moi, je pouvais dialoguer sur ce qui se passait. Sachant qu'il n'a jamais été question que ce soit un atelier thérapeutique, c'était un lieu vraiment de créativité pure. Sauf que moi, par ce dialogue avec cette personne qui quand même voyait ces jeunes par ailleurs, ça m'a permis, moi, de prendre conscience des processus d'écriture, de ce que ça peut mettre en mouvement, justement, des subtilités de l'écriture. Et puis des formes de symbolique du geste d'écrire, de le faire ou pas, avec quel instrument, la question des instruments, justement. Donc quand j'anime un atelier, je porte beaucoup d'attention au lieu, à la table, à ce qu'il y a sur la table, est-ce qu'il y a des ciseaux, de la colle, du papier, tout ça, qu'on le veuille ou non, rejoue des choses à des niveaux, des infraniveaux. Ça m'intéresse, moi.
Justement, souvent, les ateliers d'écriture, c'est les gens qui sont volontaires, qui ont envie, qui ont besoin. Mais là, avec ces jeunes, ils étaient volontaires, ou on leur a dit, tu viens là et tu vas participer à l'atelier d'écriture. Comment ça s'est passé? Parce qu'ils pouvaient dire, ils nous embêtent avec ça. C'est pas forcément évident de les amener à écrire des choses.
La première assos là, dont je vous parle, c'était des jeunes volontaires. Donc après, ils viennent à une séance, ça leur plaît, ça leur plaît pas. Ils peuvent revenir, ils peuvent ne pas venir pendant un mois, voilà. Et justement, sur ce cadre assez souple, mais par contre avec un cadre à l'intérieur de l'atelier, moi j'aime bien travailler sur des contraintes assez aiguës. Ça fonctionnait, c'est-à-dire que de fait, il y a un groupe qui s'est formé, voilà, qui a suivi pendant 2-3 ans l'atelier, puis ensuite ça se reformait. Et puis quelques années après, j'ai travaillé là en co-animation avec une autre psychologue à la protection judiciaire de la jeunesse. Là, il y avait un atelier où c'était des jeunes qui venaient d'eux-mêmes. Et puis, il y avait un autre atelier en centre de jour où là, c'était inscrit dans leur emploi du temps. Donc, d'accord, effectivement, là, la problématique est différente. Je dirais, il suffit juste d'en avoir conscience. C'est-à-dire que c'est sûr que moi, je ne vais pas venir dans le même état si c'est un atelier qui est obligatoire, entre guillemets, pour des jeunes, ou si c'est des jeunes qui viennent d'eux-mêmes. Parce qu'il ne va pas se jouer la même chose. Donc là aussi, il faut juste... penser le trajet, quoi. Comment, mais sans forcer. Enfin, c'est-à-dire que l'idée, c'est que l'écriture, ça reste un endroit de plaisir. On n'est pas là pour se faire du mal ou pour découvrir des choses. Il faut que ce soit lié.
À condition,
l'idée,
ça,
c'est de la rencontre du plaisir, justement.
Oui, ouais. Peut-être que ça. Il y a des gens qui se méfient des mots, que c'est. Ça peut être un danger pour eux de dire des mots sur leurs mots ou sur leur vie, etc. Je veux dire, il y en a qui se méfient. Je veux dire, surtout dans l'aspect de la justice, de la judiciaire, on peut se dire, si j'écris des trucs, ils vont s'en servir contre moi. Il peut y avoir une certaine méfiance. Il y a beaucoup de gens qui ont une certaine méfiance par rapport à l'écriture dans la vie.
Oui, sauf qu'en fait, moi, justement, j'ai toujours proposé des ateliers de poésie.
Oui.
C'est-à-dire, j'ai jamais proposé un atelier qui soit raconte ta vie, quoi.
D'accord.
Voilà. Après, si des éléments intimes arrivent, mais c'est toujours dans un cadre d'une écriture libre, en fait, libre avec une invitation. En fait, chaque atelier commence, même, enfin, pour quelque public que ce soit, commence par un texte que j'amène. Qui me plaît, que ce soit un poème, un extrait de roman, j'en sais rien, moi.
Plutôt comme ça, vous démarrez toujours en amenant. C'est vous qui apportez de la matière qui permet de rebondir, enfin de réagir, etc.
D'une part, parce que je pars d'un endroit où moi j'ai été touchée, et où je pense que c'est comme ça que je vais pouvoir éventuellement transmettre ou partager quelque chose. Si je suis convaincue de ce que j'amène, ça va être beaucoup plus facile qu'on fasse quelque chose ensemble à partir de ça. Et puis à partir de ça, moi, j'imagine des consignes d'écriture sous une forme la plus ludique et la plus surprenante possible. Quoi. Je pense que d'ailleurs à cet endroit-là, c'est l'endroit où je rejoins, je pense, la mise en scène. C'est-à-dire, j'élabore un parcours qui permet à la personne de rentrer dans l'écriture. Sans qu'il y ait un peu cette angoisse de la page blanche. Après, elle veut pas, ça c'est. Mais en tout cas, où ça puisse se faire, en fait, je propose des déclencheurs d'écriture. Voilà. Qu'une porte puisse s'ouvrir, et puis ensuite une seconde, une troisième. On amasse comme ça des petits matériaux d'écriture. Et puis à un moment donné, il y a un temps plus long où on prend ce petit A là qu'on avait fait, l'autre petit A, et puis les choses se mettent en relation, se mettent à jouer ensemble. Et voilà, à la fin de quoi, il y a un temps de lecture de ce que chacun a écrit. Là aussi, il y a des fois où on n'a pas envie de lire, ou on n'a pas envie que ce soit soi qui lise, ou alors c'est des lectures plus collectives. Enfin, il s'agit d'être à l'écoute du moment, quoi. Et voilà, et ce temps de lecture, c'est souvent un temps qui permet à chacun d'entendre ce qu'il vient d'écrire. Ce qui n'est pas la même chose que de le lire silencieusement sur sa feuille.
Mais il l'entend devant les autres aussi.
Il l'entend avec les autres.
Oui. Non, mais ce qui était intéressant, c'est que vous disiez au début que vous aviez besoin de solitude et de ne pas avoir de regard sur votre écriture quand vous avez commencé à écrire. Ouais. Et là, dans les ateliers, dès les premières fois qu'on écrit quelque chose, on le partage aussi avec les autres. Ça peut être un blocage, éventuellement. Il y en a qui s'y refusent.
Déjà, j'annonce toujours la couleur au début d'un atelier. Donc, déjà, être informé, ça permet... Voilà, que personne soit mis en porte-à-faux. Et puis, oui, après, ça arrive qu'il y ait des... Mais c'est vraiment très rare, en fait. Quand ça arrive, c'est vraiment très, très rare. Mais c'est possible. Oui. Le simple fait que je dise que c'est possible, Et en fait, je pense qu'il y a, quelque chose qui... il y a quelque chose de tellement savoureux à entendre chacun lire ce qu'il a écrit que je crois qu'on a peut-être aussi envie de le faire pour, ouais, pour continuer le partage ou pour juste s'enfiler comme une perle dans ce qui vient de se dérouler. Quoi. Là, on est vraiment dans du collectif. Enfin, moi, l'atelier m'intéresse beaucoup aussi parce que j'observe... justement, comment ça fonctionne entre l'individuel et le groupe, quoi. Parce que c'est à la fois on est dans un groupe, à la fois on écrit seul devant sa feuille, même si ça m'arrive d'imaginer des consignes, on est en partage d'écriture, mais il y a toujours un moment donné où on récupère ses billes. Et puis ensuite, on les repartage. Et il me semble que l'atelier est un lieu génial pour expérimenter ces trucs de dehors, dedans, de je suis seul, je suis avec les autres...
Donc c'est un aspect aussi quand même thérapeutique d'un certain point de vue dans sa relation avec les autres.
Si thérapeutique ça a un rapport à ce qui fait du bien de vivre, oui. Ouais. Bah, moi je peux pas employer ce mot-là parce que j'en ai pas les compétences et même si j'ai suivi des gens qui étaient un peu.
Mais
dans
c'est des mots qui n'appartiennent pas à des compétents.
Thérapeutique, oui. Non c'est mais voilà si je me mets à mettre une plaque devant ma porte.
D'accord. Ça, écriture voilà. Thérapeutique.
Oui. Voilà. Non et puis pour moi l'écriture, il n'y a pas besoin de mettre thérapeutique. L'écriture c'est l'écriture. Après qu'on veuille qu'on ait le courage d'en découvrir les vertus. Je sais pas, il y a quelques semaines je suis tombée sur un bouquin. Dans la très bonne librairie Caractère Libre à Hobbes,
très bonne librairie.
De Régine de Tambel sur la. Alors, comment ça s'appelle ? Je ne sais plus, littérature-thérapie ou quelque chose comme ça. Enfin, apparemment, c'est quelque chose qui existe. Enfin,
oui,
Régine de Tambel, qui est une magnifique écrivain et romancière et poète, elle est formatrice à Montpellier, j'ai découvert ça. Les livres qui soignent. Enfin voilà, c'est aujourd'hui, on peut être qualifié de. J'ai perdu le nom du.
Il y a tout qui soigne les plantes.
C'est fou, hein.
Les pierres, les vitres, les tapis, tout peut soigner. Voilà. On peut tout utiliser.
Donc j'évite de coller ces mots-là. D'une part parce qu'ils me dépassent et en plus parce que je trouve ça bien plus intéressant de rester aux mots. Et ensuite, on entre dans le mot et on voit ce qui se passe, quoi.
Ouais,
pour l'écriture, c'est ça.
Tout un problème. Alors, on écoute les mots de musique aussi.
De Janis Joplin.
Cry, cry, baby. when you're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. Honey, the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on.
C'était quelle chanson, ça, Dorothée?
C'était Cry Baby,
de
Janis Joplin.
Voilà. Donc, c'était plein de mots aussi qu'elle nous a balancés comme ça.
Oui, oui. Hein, ouais. Moi, j'en comprends un sur trois, mais,
oui,
ça,
oui,
mais je comprends tout en même temps.
Voilà. Oui, mais les cris et puis le chant, on comprend toujours tout.
Ah, bah oui, oui. Voilà.
Donc, l'écriture, on se retrouve, donc on est sur Fréquence Mistral pour l'émission Les Livres à la Parole avec Dorothée Volute, qui est à la fois écrivain, écriveur, et puis animatrice d'ateliers d'écriture.
Écriveur, je ne connaissais pas.
Voilà, ben, c'est les gens qui écrivent, quoi. Voilà.
Très bien.
Comme il y en a qui sont boulangers ou... Donc, atelier et boueur. Ouais, voilà. Et donc, alors, parallèlement, vous faites, hein, vous animez un certain nombre d'ateliers d'écriture et vous écrivez. Est-ce que les ateliers d'écriture, ils ont une influence sur votre travail d'écriture? Est-ce qu'il vous semble que depuis que vous faites les deux, l'un influence l'autre? Est-ce que ça vous amène des choses? Ça vous renvoie Est-ce qu'au cours d'un atelier d'écriture, par exemple, à écouter ce qui se passe, d'un seul coup, ça vous vient aussi, vous, le...
Oui, ça m'arrive, ben, oui. Bah, pendant l'atelier d'écriture, ça dépend du nombre, ça dépend si je sens que le groupe a beaucoup besoin de moi. Alors, soit ça m'arrive d'écrire avec, mais la plupart du temps, je suis là en soutien, que ce soit silencieux ou parce qu'il y a des choses qui me viennent, que je dis aussi au fur et à mesure. Et puis moi, j'écris aussi, j'écris ce qui se passe. Et puis donc ça arrive que ça m'emmène sur mon petit chemin, puis 5 minutes après je reviens. Enfin voilà, je suis pas. Mais l'écriture, l'atelier d'écriture, oui, a forcément eu du jeu avec ce que j'ai écrit jusqu'à présent. Oui, oui, oui. Ça c'est sûr, surtout avec les ateliers que j'ai animés avec les adolescents, parce que je sais pas, j'ai l'impression que comme c'est arrivé au début où moi je me mets à écrire, donc j'étais un peu dans l'enfance de l'écriture pour moi. Il se trouve que c'est ce moment-là où je commence à refréquenter des adolescents, des enfants aussi. Donc ça a fait ressurgir aussi tout un pan émotionnel en fait de cette période pour moi, et qui est venu.
Nourrir votre travail.
Nourrir l'écriture, oui, bien sûr. Oui.
Et donc, vous avez l'impression que ça vous a fait arriver à la maturité, c'est-à-dire vous êtes devenu un peu parent, mature, et en même temps...
Si cette parent s'est pu écrire, oui, ça correspond tout à fait.
Dans l'écriture? Non, ah non, mais...
Non, j'en sais rien. En tout cas, c'était quoi la question de départ?
Non, c'était le fait de se trouver face à effectivement des adolescents qui étaient, je dirais, à l'adolescence de l'écriture.
Oui.
Et vous, faisant le travail d'accompagnement, oui, un peu de parents,
oui,
est-ce que ça vous a, est-ce que vous avez l'impression que dans votre travail à vous, vous avez grandi,
vous êtes
devenu adulte?
Ça m'a bien aidé. Voilà. C'est sûr. Quand on bosse avec des adolescents, vaut mieux être adulte qu'adolescent, sinon ça peut mal se passer, quoi.
Ça peut être marrant.
Ouais. Ça peut être marrant un moment, mais si on ne sait pas repasser de l'autre côté, ça peut. Là, moi, je travaillais avec des jeunes qui avaient quand même certaines
difficultés,
pathologies, qui étaient. Donc là, il s'agit de pas faire n'importe quoi. On peut faire. Moi, j'aime bien faire le clown, mais c'est juste bien sentir à quel moment on enlève son nez et à quel moment. Il faut tenir les deux rênes en même temps, quoi. Moi, ça correspond à ce que j'aime bien faire et je crois que je le fais pas trop mal. Donc ça va, mais c'est pas. Par contre, le moindre dérapage, on le sent, quoi.
Animer la nature, c'est une responsabilité.
Oui.
On se sent responsable.
Ah oui.
Y compris avec des adultes.
Pour moi, c'est une grande responsabilité. C'est pour ça que c'est un travail. Après 2 heures d'atelier, je suis fatiguée. Ça me demande une grande énergie parce que c'est une énorme responsabilité.
Et ceux qui viennent dans ces ateliers de créature, ils ont une attente, une demande, ils expriment des choses, on leur doit quelque chose de particulier. Comment ça se passe en fait? Comment on vérifie qu'on a fait son boulot?
Pour eux ou pour moi?
Pour eux, ils sont venus, ils viennent à un atelier comme on vient à un cours ou on vient à une séance de ski nautique.
Je vérifie à la qualité de silence qui se déploie pendant l'atelier.
Ah.
Oui.
D'accord.
Et pas seulement au moment de la lecture finale, mais pendant, en fait. Je sens si on est dedans ou pas. Et si on est dedans, ça veut dire qu'on est dedans, quoi. Donc c'est bon, ça, d'être dedans. D'une part, parce que c'est du plaisir pour celui qui est en train de le faire. Pour moi, j'ai un retour que ce que j'ai proposé a du sens, en tout cas que ça colle aussi avec le groupe à ce moment-là, ce jour-là, que je ne suis pas à côté de la plaque. Pour moi, il y a vraiment... L'atelier d'écriture, c'est aussi un travail sur la présence, quoi. Je peux mesurer à la lecture finale, pas tant dans les textes même que dans la qualité d'écoute, dans le silence de celui qui vient de lire après. Parfois je me plante aussi, parfois j'ai l'impression d'avoir foiré et puis en fait j'ai des très bons retours. Ça arrive, mais moi je suis très attentive à cette chose de parce que le silence, c'est pas un silence vide, il y a une concentration, il y a une écoute, c'est-à-dire qu'il y a des endroits à l'intérieur, il y a des connexions là qui sont en train de se faire, très précieuses, quoi. C'est subtil, il y a un truc subtil en fait. Voilà, et après, comment ça se mesure? Si les gens reviennent la semaine d'après, ça, c'est plutôt bon signe. S'ils reviennent l'année d'après, c'est plutôt bon signe aussi. Après, l'atelier d'écriture, notamment pour les adultes, par exemple, là, depuis 2 ans, je propose, puisque maintenant, je suis dans le Haut-Var, et donc je propose des ateliers du côté de là où j'habite, pour les adultes. Et... voilà, là, ça fait 2 ans, par exemple, des gens inscrits dans un atelier. Mais je pense qu'il y a aussi un moment où on quitte l'atelier d'écriture.
Oui, entre les...
Enfin, c'est ce que je me dis, j'en sais rien. Oui. Je vais voir, mais j'ai cette sensation-là
non,
aussi.
Non, mais on le quitte de façon momentanée. C'est-à-dire, il se passe quelque chose entre les deux séances. Parce que, il y a ce qui se passe pendant l'atelier, mais je présume que... comme vous en parliez au début, l'écriture, ça se retravaille, etc. Il y a quelque chose qui se passe pendant l'atelier, et on peut très bien dire, mais je n'ai pas fini. Donc, entre 2 séances de l'atelier d'écriture, on peut maturer un texte, le transformer, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? C'est-à-dire, on s'aperçoit que les gens travaillent entre 2 ateliers sur des choses qui se sont faites pendant cet atelier ou sur autre chose. Est-ce que ça les entraîne à travailler sur des textes?
Moi, en fait, j'aborde pas l'atelier comme ça. C'est un moment qui se clôt sur lui-même, en fait.
D'accord.
Après, c'est libre à chacun de retravailler ou pas. Pour l'instant, moi, ça fait pas partie des choses que je propose. Ni qui m'intéresse, en fait, pour l'instant. Voilà,
non, mais ça pourrait. Il y a des gens qui pourraient dire, depuis trois mois, là, mais je suis venu 5 fois, mais depuis, j'ai écrit tous les jours. Tiens, je t'amène ce que j'ai écrit. Est-ce que tu peux regarder? Je sais pas, il peut y avoir
de ça. Oui, c'est arrivé, ça, c'est arrivé de temps en temps. Oui, oui. Ah oui, oui. En tout cas, oui, j'ai des retours de certaines personnes qui vont me dire ça a déclenché ça, mm-hmm. ou sur la lecture aussi. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui.
D'accord, ça a bougé quelque chose. Donc ça...
Oui, oui, oui.
D'accord. Est-ce qu'on lirait encore un petit bout d'un de vos textes, Dorothée? Donc on avait lu Alphabet, édité par Éric Pesty de Marseille.
Et là, je vais vous lire un extrait de Scènes extérieures. Comme ça, je fais de la pub à une autre petite édition magnifique, Contre-pied.
Qui est d'où ?
Martigues.
Martigues.
Voilà, l'association Autres et Pareils qui organise énormément de lectures, de poésie. Et qui édite, voilà, toujours pareil, des petits, enfin, un peu moins beau, on va dire, que ce que fait Éric Pesty, mais là, c'est toujours des petits fascicules agrafés. Eux, ils défendent le truc vraiment tiré sur photocopie, et ça vaut 4 euros, et voilà. On peut s'abonner. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire ? Allez. La plupart du temps, la peau n'a pas de couleur. L'observation des autres est uniquement cutanée. Toi, c'est dans le filet de toi-même que tu avais pris des poissons. Cela me tracasse ce qu'il dit, et je n'ai aucune règle pour délimiter l'ennui. Ailleurs, dans des bureaux, ce doit être la même chose, sauf le cadre. L'amoncellement des tâches recrée les plis de la pensée. Plus je conserve le rythme de mes doigts glissant sur le clavier, plus je m'enfonce. Le rythme porte la partie de toi qui ne sait pas s'entendre avec elle-même. La musique, alors, est une nécessité. Poser des clés ou des légumes sur une table est un point rassurant. Je dépose et le support reçoit, sans s'effondrer. L'effondrement est humain. La table non, semble-t-il. J'écris sans dépasser. Juste un peu en avant. Et sage, le fil rentre toujours dans chacun des trous provoqués. Pourtant, je ne ris pas, et je n'admets pas de ne pas aller jusqu'au bout.
Alors, comme la musique est une nécessité, on va en écouter un petit peu. écrasé par la mule. donc on se retrouve sur Fréquence Mistral.
Amen.
Pour l'émission Les livres ont la parole avec Dorothée Volute, qui est à la fois écriveuse
et organiste.
Oui, organiste.
Non.
Et puis animatrice d'atelier d'écriture. Donc depuis pas mal d'années. Alors ça fait donc une grosse expérience de l'atelier d'écriture.
Et depuis une dizaine d'années.
Voilà. Et c'est un métier, vous considérez que c'est un métier que...
Bah oui, on peut dire ça.
Oui. Oui. Oui.
Bah oui. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est qu'un métier.
Non, mais je veux dire,
c'est quelque chose qu'on fait régulièrement.
Oui. Avec laquelle on
et en plus, oui, ça.
On gagne sa vie, on apporte quelque chose, on apporte quelque chose à une société. Gagner sa vie, c'est aussi comme le boulanger.
Oui. Voilà. C'est ça. Oui, j'amène mon pain quotidien.
Voilà. Oui. Et on a des gens fidèles, on a des retours, il y a des gens qui restent longtemps en atelier d'écriture, ou comme vous disiez tout à l'heure, on est amené à le quitter un jour pour devenir écrivain.
Alors ça m'est jamais arrivé là.
Ah, mais ça peut venir.
Non, par contre, ce qui m'est arrivé, c'est de retrouver des années plus tard, justement les premiers jeunes avec qui j'avais animé des ateliers, et qui eux-mêmes voulaient animer des ateliers. Dans leur lycée, par exemple, pour les copains. Ça m'est arrivé deux fois. Ça, c'était génial. Du coup, enfin, l'écriture avait vraiment pris une place dans leur vie. Et en plus, ils avaient envie eux-mêmes de le transmettre à leur manière par le biais de l'atelier. Donc voilà, un atelier, un livre, une lecture, tout ça, ça participe de faire circuler l'écriture.
Alors, vous disiez tout à l'heure que vous étiez dans une période un peu de friche. Oui. Est-ce que justement, l'approfondissement de ce travail d'atelier d'écriture, ça ne vous mange pas votre capacité d'écrire ? Pourquoi vous êtes en friche ? C'est aussi la vie qui fait que...
Oui, je suis devenue maman ces trois dernières années. J'ai envie, ça se fait comme ça. Enfin, j'ai pas la disponibilité. Je sais pas, en fait. Est-ce que c'est une question de disponibilité ou est-ce que... Forcément, l'écriture, elle se replace par rapport à ce nouveau vécu.
Oui.
Donc, elle se réinterroge. Le geste lui-même, il prend pas place de la même manière dans une journée qu'autrefois. Et puis après, de fait, c'est vrai que j'ai envie d'être disponible à mon petit garçon... et puis après, il y a plein d'autres choses. Il y a ce qui se passe autour de moi, autour de nous. Et puis, Donc actuellement, j'observe beaucoup les gens qui écrivent dans les ateliers d'écriture. Je trouve ça très beau, quoi, les gens qui se déplacent pour venir écrire comme ça. Une fois tous les 15 jours, en plein hiver, qui prennent leur voiture, qui traversent la nuit, parfois il pleut, parfois il fait froid, ils sortent quand même à 7 heures de chez eux, ils reviennent à 10 heures le soir. Ça me touche beaucoup, donc je ne sais pas, je me laisse toucher aussi par cette chose-là, en me disant que quand même l'écriture est très importante dans notre société, dans nos vies, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, que... ça me paraît être une fonction presque humaine, enfin, qu'il y a sûrement moyen de faire fructifier encore et encore, en tout cas poser notre attention sur cette fonction-là, presque physiologique, je ne sais pas, il doit y avoir des choses qui se passent à l'intérieur.
Vous parliez de fonction, c'est une fonction de communication, mais c'est aussi une fonction différente.
Non, communication, non.
On écrit, on l'utilise pour communiquer.
Oui, on l'utilise pour
forcément
communiquer. Oui,
mais
oui.
Ça peut être,
non,
c'est aussi autre chose.
Non, moi, l'écriture dont je parle, c'est pas l'écriture communication. C'est l'écriture. c'est pas de la communication. C'est de l'écriture. Il faut le faire, si on a envie de le faire, mais c'est à vivre, quoi. C'est à vivre, c'est à essayer, c'est à...
Oui, alors vous parliez de changement dans la vie, de réinterrogation par rapport à l'écriture. Est-ce que aussi, c'est quelque chose qui peut se tarir. Hein, ce goût que vous avez il y a un certain nombre d'années comme ça qui vous est venu, est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous avez l'impression que ça peut se tarir, s'arrêter, ou que ce goût pour l'écriture, on l'a toujours, même si on a des moments de pause?
Ben je sais pas, il y a des moments où je doute, et puis là depuis quelque temps je me suis remise à lire, puisque ça aussi ça s'était presque tari, comme vous dites, et à la faveur de certains livres j'ai senti que j'avais envie d'écrire grâce à certains livres qui me font sentir que ah non mais bon sang, j'ai envie d'écrire quoi. Moi aussi j'ai envie de le faire. Voilà, donc je me dis que c'est encore là quelque part. Après, il y a quand même clairement une question de temps aussi. Je trouve que l'écriture, à la fois on est dedans et à la fois il y a besoin d'une distance. Est-ce que c'est être à distance des autres à certains moments? Est-ce que c'est... Je ne sais pas trop. Là, ce que je sens, c'est que, voilà, par exemple, si j'avais une semaine juste avec ça, avec les cahiers, avec quelques bouquins... Peut-être je pourrais un peu mesurer où est-ce que j'en suis et qu'est-ce qui... Voilà, en même temps, je fais confiance aussi à la vie et que pour moi, mon écriture, elle s'inscrit dans la vie. C'est vraiment c'est comment ça se tresse avec la vie, quoi. C'est ça qui m'intéresse aussi. Ce que j'écris, ça parle de ça. Ça parle de ça. Ça communique pas là-dessus, mais ça c'est quand même de ça qu'il s'agit. Donc je me dis, continuons à vivre et puis voyons comment ça revient. Et puis entre-temps, voilà, il y a d'autres choses. Il y a les ateliers, il y a des propositions de lecture. Il y a 2 semaines, j'étais participée à un atelier de traduction à Berlin. Bon, allez, je le fais, on verra bien. Même si ça me fait peur parce que j'ai l'impression d'être décalée ou je sais pas. Bon, voilà.
Alors lecture, justement, lecture... Par rapport à l'écriture, quel rôle ça a à lire à haute voix? On en a parlé tout à l'heure, oui. C'est important. Oui. Mais c'est aussi quelque chose que vous avez été dans le théâtre, entendre la sonorité des mots. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, vous aimez travailler la lecture?
Je ne la travaille pas, mais j'aime lire à voix haute. Oui. Et d'ailleurs, là, ces 2 dernières années, il m'a été donné de faire la lecture régulièrement à une dame en maison de retraite. Toutes les semaines, je n'avais jamais fait ça. Faire la liseuse, et j'adore ça. Et voilà, donc j'aime bien lire à voix haute, oui. J'aime beaucoup ça.
Alors, on le fait aussi quand on a un petit garçon de 3 ans.
Oui, oui.
Forcément,
oui.
Parce que lui, il sait pas lire.
Ah, bah oui, voilà. Donc, ah bah là, je m'amuse, là.
Oui, donc il est demandeur en même temps, lui. Il est...
Oui, oui, oui. Oui. Ouais. Puis en plus, je sens bien les moments où ça marche, les moments où ça marche pas, si je suis présente ou si je suis pas présente, quoi. Ah mais oui, j'aime bien ça, ouais. Puis moi, j'aime bien faire des voix, tout ça.
Alors aussi, le fait d'avoir un changement de vie, un petit garçon, ça pourrait être aussi un prétexte à écrire des choses sur ça.
Oui.
Est-ce que ça peut générer quelque chose dans l'écriture?
Oui.
Pas pour l'instant.
S'il y a des envies, mais je sais pas, peut-être je suis bloquée quelque part. Pour l'instant, ça.
Non, mais il faut attendre qu'il passe son bac et qu'il aille.
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais, ça reviendra. Mais...
Donc pour l'instant, je vais faire la lecture tous les 15 jours à la crèche, par exemple.
Ah oui, c'est bien.
Ah oui, je. Voilà, donc ça me permet de découvrir. Non, mais par exemple, ça me permet de découvrir la littérature jeunesse que je connaissais. Enfin, jeunesse, comme on dit, les albums, que je connaissais pas du tout.
Ah oui, mais il faut être parent pour découvrir ça.
Voilà. Je sais pas.
Enfant ou parent, oui.
Et donc là, c'est vrai que c'est génial. Et l'an dernier, j'étais invitée près de Reims, il y a un super centre de création pour l'enfance et une maison de la poésie qui vient d'organiser le premier salon poésie jeunesse.
Ah.
Donc sont invités là-bas des éditeurs, des auteurs, des illustrateurs.
Ce sont des enfants, a priori, qui écrivent? Non, ce sont des adultes qui écrivent pour des enfants, plutôt. Ouais.
Mais pas que des adultes qui écrivent pour des enfants. Enfin, justement, les frontières sont... C'est vraiment un moment pour les enfants, un lieu pour les enfants. Il y a des typographes, des sérigraphes. Et voilà, donc là, ça me permet aussi de découvrir des choses qui se font. Voilà, de rencontrer des gens aussi. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, envoie-nous quelque chose. Mais ouais, là aussi, il faut du temps. Enfin, en tout cas, moi, il me faut... Pour l'instant, j'aimerais bien, ouais, ça me plairait de faire cette expérience-là. Ouais.
Donc, ça vous intéresse beaucoup d'être dans ce monde de l'écriture, de la poésie, du partage des mots et de la lecture, etc. C'est au-delà de l'écriture, c'est un monde qui se construit autour de ça. C'est un monde qui existe.
C'est un monde qui existe, voilà. Oui. J'y participe, mais je participe aussi à d'autres mondes.
Non, mais il y en a qui font que jouer aux boules.
Ah oui.
Non, mais on peut jouer aux boules et aussi, c'est quand même un espèce de oui, monde oui. Qui est un peu partout, à différents endroits.
Exactement. Oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai à cœur de pouvoir le faire circuler. Il y a 2 mois, par exemple, j'ai eu un ami, la poète, qui faisait une grande marche en Provence et qui s'arrêtait dans les villages pour dire ce qu'il écrivait. Voilà, on a organisé une petite soirée à Artignosc chez Sandra, l'épicière, et on a passé un moment fabuleux. Voilà, on était une vingtaine avec Marien Guillet qui nous a lu ses poètes et une autre femme prof de français qui écrit du slam aussi, qui chante. Et c'était un moment génial. Donc on était 20 à pouvoir partager ça et moi je pouvais offrir ça, voilà, dire tiens, j'ai cette amie, voilà. Donc ça me plaît aussi d'être passeuse là, pendant ce temps-là où moi c'est ça que je fais aussi en ce moment, je passe quoi. Voilà. Et puis voilà.
Écriveuse, liseuse, passeuse, animatrice d'ateliers d'écriture. Voilà. A priori, il n'y a pas de grand projet que vous ayez dans le travail d'écriture. Il n'y a pas de rêve en disant « j'aimerais bien écrire un beau recueil de poésie ».
Si, j'aimerais bien, ouais.
Vous avez déjà de la matière
J'ai un tout petit peu de matière, très très peu, mais suffisamment peut-être pour déjà sentir un peu une direction. Voilà. Après, il faut essayer. Ouais, là, je pense que c'est une question de temps aussi pour moi, d'arriver à me dégager du temps rythmique. Enfin, ouais, l'écriture, c'est aussi pour moi un ralentissement. Donc là, il faudrait du temps pour me permettre de ralentir et de me poser face aux quelques petites choses qui existent. Et puis sinon, dans les projets, je suis en train de monter mon association, le Chant des stylos, qui naîtra à la rentrée pour mieux communiquer, comme on dit, sur les ateliers, mais aussi proposer d'autres choses. Ouais, j'ai des rêves de rencontres entre l'écriture et l'agriculture. Voilà, j'ai un projet en tête, mais ça, il faut que l'association puisse bien vivre pour que je le fasse. Parce qu'il y a des choses que je peux faire bénévolement, enfin voilà, et puis il y a des choses où j'ai besoin aussi de faire rentrer un peu des sous. Voilà, à la vie, quoi.
Justement, la poésie, c'est pas un type d'écriture dans lequel c'est facile.
C'est la manne, la poésie.
Oui, non, mais c'est un milieu très, je dirais. Il y a beaucoup de gens qui écrivent de la poésie ou qui croient en écrire, mais je veux dire, c'est difficile d'être édité dans ce milieu, non ?
Oui. Bah, moi, je ne vais pas me plaindre, parce que jusqu'à présent, pour moi, ça s'est fait de rencontres. Et je ne vais vraiment pas me plaindre, mais bien sûr, je connais pas mal de gens qui ont des difficultés, qui ont des difficultés dans la publication de ce qu'ils écrivent, quoi, qui ont des choses à publier, et puis ça peine à se faire. Quoi, parce qu'il y a peu d'éditeurs, il y a peu d'éditeurs qui prennent des risques. Parce que alors, où est l'œuf, où est la poule, c'est toujours la question. Voilà, il y a peu de lecteurs de poésie. Il y a peu de place dans les librairies pour l'espace poésie. Y a peu de gens qui lisent, peut-être peu de libraires qui lisent vraiment de la poésie et qui, du coup, sont à même de faire une petite place pour ça dans leur librairie. Ça peut se comprendre aussi. Enfin, voilà, c'est pas du tout un jugement.
C'est pour ça qu'on finit.
Je dirais qu'aussi dans les écoles, il faut faire de la place à la poésie et pas seulement Maurice Carême, même s'il y a des très jolies comptines. Voilà, il y a des choses fantastiques qui se font aujourd'hui, qui s'écrivent et qui ravissent les enfants quand on leur lit et quand on les invite aussi à l'écriture, parce que il me semble qu'aujourd'hui tout ça peut et devrait circuler, la lecture, l'écriture, le. C'est aussi en éprouvant l'écriture qu'on apprend à l'aimer. Voilà. Et un autre, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, par exemple, il y a un superbe livre de Jean-Pierre Siméon qui s'appelle La vitamine P, qui est un bouquin qui est sorti il y a 2-3 ans à Rue du Monde, qui parle de ça, justement, de la nécessité, vitamine P comme poésie, P comme poésie, la nécessité d'irriguer nos écoles avec de la poésie, quoi. En invitant des poètes, en invitant des éditeurs, en invitant... voilà.
Est-ce que c'est vraiment utile pour réussir dans la vie?
Oui.
Oui.
Ça dépend. Non,
parce qu'il y a des parents qui pourraient, comme le latin et le grec, trouver que la poésie, ça sert à rien. On n'en trouve pas... Ça nourrit pas, ça remplit pas les assiettes, on n'en trouve pas dans les supermarchés, finalement.
Non, mais ce qui est génial aujourd'hui, c'est que comme on va dans le mur, on va enfin pouvoir faire ce qui nous plaît.
Voilà. Alors justement, parce que vous parlez de mur, il y a des moments... Quand, si on a du mal à éditer, on finit par écrire sur les murs. Ça vous est arrivé?
Oui, ça, j'ai affiché, j'ai pas écrit directement, j'ai jamais tagué. Hein.
D'accord.
Oui, ça m'est arrivé, ouais. Au début, ça m'est arrivé. Avant d'être publié, j'ai collé sur les murs. Mais ça m'allait très bien. J'étais pas malheureuse. Hein. Moi, ça était bien comme ça. De toute manière, je savais même pas qu'on pouvait être publié, donc. Peut-être c'est ma naïveté qui me sauve.
Et donc vous mettiez des mots sur les murs.
Oui. En 2002, dans l'entre-deux-tours des élections, j'ai affiché toutes les nuits ou à peu près. Enfin,
toutes les nuits, d'accord.
Non, peut-être pas toutes les nuits. La première semaine, c'était quand même intense. Mm-hmm. Puis je me suis calmée la deuxième. Et voilà.
Et qu'est-ce que vous écriviez sur les murs? Alors c'était de la poésie?
C'était... oui, on pourrait ranger ça quand même du côté de la poésie. En tout cas, ce n'était pas des manifestes.
Alors dites-nous, par exemple.
J'ai plus en tête. En tout cas, voilà. La phrase qui me reste et qui a quand même été un peu le déclencheur d'une partie de tout ça, c'était une phrase simple qui m'était venue, qui est « Je te regarde, tu me souris ».« Je te regarde, tu me souris, tu me regardes ».
Je te souris.
Je te souris. Et je m'étais dit, tiens, je vais chercher la traduction de cette phrase dans toutes les langues étrangères qui sont parlées dans le quartier où j'habite, qui était un quartier dans le cœur de Marseille, le Panier. Et voilà. Et puis, comme ça, la veille du deuxième tour, tu l'afficheras à côté des bureaux de vote. Et puis, ce sera magnifique. Ce sera la révolution. les gens seront convaincus de ce qu'il faut faire.
Et ils sont mis à sourire, d'après vous? Vous avez eu l'impression qu'ils souriaient?
Mais dans les semaines qui ont suivi, c'était des liesses dans toutes les rues de Marseille. C'était incroyable. Incroyable. Non, mais vous avez vu d'ailleurs ce qui s'est passé depuis.
Tout a changé, la vie.
Tout a changé à Marseille. Tout a changé. Voilà.
D'accord. Moi, je vais lire un petit bout de vos textes. J'ouvre une page comme ça. D'ailleurs, parce qu'on va bientôt arriver au bout de l'émission, ça tombe bien. Alors, je tombe sur un texte qui dit « Je vais cesser de parler. Je vais poser mes lèvres sur une matière. Je ne peux plus parler. Je vais poser mes lèvres sur un volume surface solide. » Plein de résistance molle et contact, les appliquer longtemps les coller complètement, ni sus ni aspiration, justement appliquer le vide contre le vide et toucher la surface en face. Voilà. Vous dites plus rien du coup.
Parfait.
On écoute un peu de musique.
Twisted, cause you weigh a heavy load. Then you turn and ask me, how will I ever know? Talk about your searching, but I think it's all for show. Heard your mournful song, heard your faithful cry. Seen the light of hunger burning deep within your eyes. Talk about your sinking, but it holds your head. You expect for me to love you when you hit yourself, my friend. And you got yourself a potion for to keep you from your sleep. In the dark and lonely hours, I heard you laugh at me.
On retrouve notre émission sur Fréquence Mistral, les livres ont la parole, avec Dorothée Volut, qui est, on a dit, liseuse, écriveuse, diseuse. Donc, si je résume un peu cet entretien, oui, résume. L'écriture, ça remplit une vie. C'est-à-dire, on peut, par différentes façons, la remplir, y compris gagner sa vie avec ça.
Oui.
Sous différentes formes. Donc c'est, l'écriture peut être en soi, je dirais, à la fois un métier et puis quelque chose qui vous remplit.
Oui. Contrairement à tout ce qu'on peut penser.
Mais c'est ça qui est intéressant, je veux dire, parce que on a toujours l'impression qu'il y a des écrivains qui écrivent plein de romans. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a moins de 100 auteurs en France qui gagnent leur vie avec leurs livres. Mais par contre, il y a tout un tas de gens qui travaillent sur l'écriture. Bon, je parle pas des enseignants, mais aussi tout un tas de gens qui travaillent autour de l'écriture. Et ça vous semble important de...
Ah oui. Il y a énormément de... pas seulement par les ateliers, je veux dire, les rencontres, les lectures, les débats, les conférences, les articles dans les journaux, dans les revues, sur Internet, il y a énormément de... en tout cas, en matière de poésie, il y a énormément de sites, il y a une vie foisonnante sur Internet. Moi, je la fréquente pas tellement, mais je sais qu'elle est foisonnante et très intéressante. Oui.
Donc l'écriture, c'est la vie, quoi, si je...
L'écriture, c'est la vie.
Si je
mais
résume.
Oui, absolument. Ouais. Ouais, ouais.
Ouais. Bon.
Et ici, oui, il suffit de lire Abdelatif Labi pour en être convaincu. Qui a écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle Écris la vie.
Écris la vie.
Un très beau recueil de poèmes.
Eh bien, on va en rester là, peut-être.
Mais
on va vous remercier, Dorothée, d'être venue jusqu'à Digne.
Merci à vous pour l'invitation.
Parler de l'écriture, voilà. Je sais pas comment on peut vous appeler quelqu'un qui fait de l'écriture, une écritureuse, inventer un mot qui vit pour et avec l'écriture et aventureuse de l'écriture, aventurière de l'écriture, c'est beau ça. Voilà. Bon, et ben on écoute encore un petit peu quelque chose et puis
qu'est-ce qu'on écoute?
À bientôt, Dorothée.
À bientôt.
Acechado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida.
la pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Donc voilà, ben on se retrouve pour l'émission Les livres ont la parole. Enfin, on est à la fin, puisqu'on a reçu aujourd'hui Dorothée Volute, qui est à la fois écriveuse et animatrice d'ateliers d'écriture, qui nous a parlé longuement de la place de l'écriture dans notre vie et l'importance que ça a finalement. Et puis, donc, c'est les 10 dernières minutes hein, que j'ai appelé droit d'auteur pour parler un petit peu du travail des éditions Parole que nous menons. Donc, il y a des livres qui viennent de sortir, il y a plusieurs livres qui viennent de sortir, deux dans la collection Mains de Femmes. Donc un roman qui s'appelle « C'était en février » de Mireille Barbieri, hein, qui est la rencontre d'un jeune garçon qui part sur la route avec des gens dans un village, et une vieille dame, et puis il y a tout un secret derrière cette vieille dame dans sa maison toute seule. Et puis de Louisa Miria, Lille, les sept nuits d'Ève à Lilith, qui est une espèce de roman initiatique aussi sur ce que peut être la rencontre entre des hommes et des femmes. C'est un livre assez étonnant. Voilà, donc je vous les recommande tous les deux. Et puis pour finir la série que nous avons entamée sur l'immigration, on avait sorti plusieurs livres sur l'immigration, les témoignages sur l'immigration italienne, espagnole, alsacienne. Et pour terminer, ben, on vient de sortir un livre de cuisine immigrée, c'est-à-dire donc dans une région très précise de Dordogne, puisque les trois autres livres étaient nés là. Ça pourrait être dans n'importe quelle vallée de France ou d'Europe. Donc on a recueilli les recettes que tous ces gens qui sont venus de partout ont apporté avec eux, des recettes familiales. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre de cuisine populaire, quoi. Parce que souvent aujourd'hui, les livres de cuisine, c'est les grands chefs, on comprend même pas ce qu'ils disent, ils emploient des mots et puis des ustensiles qu'on sait même pas utiliser ou qu'on trouve pas. Donc là, c'est vraiment on a des soupes, on a des entrées, on a du poisson, etc., des desserts, des apéros, mais ça vient du transport que chacun a, parce que pour moi, la culture, c'est à la fois la langue maternelle, mais la langue du goût aussi. Voilà. Donc en fait, il y a 10 nationalités, intérieures et extérieures. On a les Bretons, les Périgourdins, les Alsaciens pour la culture, je dirais, cuisine interne. Et puis on a aussi de l'extérieur, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Et puis si on remonte un peu plus haut, on a les Anglais, les Écossais, les Néerlandais, les Belges. Voilà, ce qui donne des rencontres assez étonnantes, parce qu'on nous envoie toujours des super bouquins avec un truc très très loin sur la cuisine en Afrique du Sud, mais là c'est une cuisine qui est entrée dans notre cuisine qu'on a tous les jours. Voilà. Donc ça s'appelle La cuisine d'un pays à l'autre, 100 recettes immigrées. Voilà. Donc et c'est vraiment assez étonnant. Quand on ouvre ce livre, il y a plein d'images et en même temps on a tout de suite l'eau qui vient à la bouche, parce qu'on reconnaît beaucoup de choses qu'on aurait aimé faire parfois, qu'on a toujours du mal, et qui sont des choses simples, et des petites soupes et des petits plats.
Vous les avez récoltés comment
Alors c'est du collectage, hein, c'est
du collectage dans le territoire
dans une vallée de Dordogne, qui est le pays des Mets, qui est la vallée du Dro, qui est un affluent de la Dordogne. Et donc, il y a un travail depuis des années d'une association qui s'appelle Langage Pluriel, avec l'amicale laïque de ce coin-là, et le pays d'Aimé. Donc, a été de travailler. C'est un pays d'immigration très marqué, dans la mesure où la Dordogne, après la Première Guerre mondiale, comme ils avaient la politique de l'enfant unique, la plupart des jeunes hommes étaient tués, donc on n'avait plus de bras pour travailler les terres. Première chose qu'on fait, le gouvernement français, c'est de transporter des Bretons, qui avaient beaucoup d'enfants. On a amené les Bretons par train entier. Ensuite, il y a eu, du fait de la misère, de la politique, etc., il y a eu toute une arrivée d'immigrés italiens, mais ça a été dans toute la France. Et ensuite, avec la guerre d'Espagne, donc on a eu beaucoup de républicains espagnols qui se sont réfugiés dans ce sud-ouest aussi. Et puis, aujourd'hui, on a... depuis un certain nombre de décennies et même depuis longtemps, beaucoup d'Anglais, beaucoup de gens qui viennent dans cette région, ils y ont vécu il y a longtemps. Voilà. Donc il y a tous ces gens qui viennent de partout, de Belgique, des Pays-Bas, etc. Et chacun vient avec sa cuisine. Donc c'est vrai qu'il la transforme, il l'adapte, et puis je dirais, elle se mélange avec la cuisine du lieu en fonction de la matière qu'on trouve. Mais c'est vraiment une cuisine où chacun transporte, c'est son identité. Je veux dire, c'est plus l'identité des individus, la langue et puis le goût. Que beaucoup d'autres choses. Quoi. Voilà.
Du coup, c'est écrit avec les mots des gens, c'est eux qui...
Oui, alors...
Chacun a écrit sa
recette, chacun
traduite est, ou pas
Oui, oui, tout à fait. Oui, non, c'est en français, ça a été mis en français, oui. Mais c'est aussi émaillé de tout un tas de petits témoignages. Oui. C'est-à-dire, les gens disent, voilà, ma recette de la polenta, mais il peut y avoir un témoignage, non, ma mère le faisait comme ça, c'est quand on est arrivé, voilà. Donc, c'est, à chaque fois, c'est bourré de petits témoignages très intéressants sur aussi la façon dont dans le pays d'origine, à quel moment on mangeait ça, qu'est-ce qui était, il y a des circonstances, il y a des fêtes, il y a aussi des moments qui sont nécessités par la saison. Hein, il y a des légumes qu'on n'a pas en toutes les saisons, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. C'était ça qui était assez intéressant. Voilà. Sinon, les rendez-vous, vous pourrez nous rencontrer, les éditions Parole, il y a plusieurs... rendez-vous, on a une soupe olive à Traître le 5 juillet. Ensuite, on sera dans la vallée du Jabron le 11 et 12 juillet pour le festival Art Lire, hein, organisé à Montfroc dans la vallée du Jabron. Sinon, dans les projets, on a aussi quelques livres qui vont sortir, qui sont d'importance pour nous. On a en particulier le prix de la liberté de Pierre Souhaité qu'on a présenté déjà à la médiathèque intercommunale de Digne en avant-première, donc qui est un roman historique sur la remise en esclavage des Noirs en 1802 par Napoléon Ier. Donc on est dans le thème de l'esclavage qui est un thème toujours actuel. Et puis autre titre mais complètement différent, c'est la biographie d'un monsieur qui a disparu, qui est le commissaire Laviolette. Hein, donc, qui était un héros de commissaire Laviolette, étant un héros de Pierre Magnan, c'est le héros de tous ces romans policiers. Donc, Jacques Meurant, qui était très ami avec Pierre Magnan, a beaucoup rencontré Pierre Magnan, qui lui a dit beaucoup de choses sur son héros. Et du coup, Jacques a décidé de faire une biographie de ce héros en nous apprenant plein de choses intéressantes et puis en retraçant une petite histoire complémentaire. Une des aventures du commissaire Laviolette. Voilà. Voilà, donc ça, c'est à paraître bientôt, puisque début août, il y aura aussi une fête du livre à Riez autour du polar et du livre noir, organisée par le très excellent aussi libraire de Riez, Aline et Pascal Jaubert, qui sont un couple de libraires vraiment. Super, comme on en a un très bon à Hobbes, dont Dorothée a parlé tout à l'heure. Voilà. Oui, finalement, j'avais pas fini. Donc je voulais. Oui, il y a deux choses qui viennent de sortir aussi. Beaucoup de gens connaissent le polar de Barney Vaucher, qui est un grand grimpeur qui s'appelait Meurtre au Verdon. Alors maintenant, on a une suite qui s'appelle Abat les masques. Alors ça se passe plus dans le Verdon, mais c'est toujours dans le milieu des grimpeurs. Ça se passe dans les Calanques. Hein. C'est l'histoire de jeunes qui sont devenus... Tu sais, le grimpeur, c'est pas toujours un métier comme écrivain. river qui permet de gagner sa vie. Donc ils font des travaux acrobatiques. Puis un jour, ça leur paraît plus intéressant d'aller, en utilisant leurs dons, cambrioler les villas des riches en haut des falaises. Voilà. Donc, abat les masques et il sort ces jours-ci. On l'aura d'ici quelques jours. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout de l'émission. Merci à tous d'avoir écouté. Merci Dorothée de nous avoir dit plein de choses sur l'écriture. Et puis, on se retrouve un mercredi en juillet. On dit plus deuxième mercredi parce que ça change, mais un mercredi en juillet. Voilà. À bientôt. Merci.
À bientôt.
Certo ci fu qualche tempesta, anni d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via. Ed ogni mobile ricorda in questa stanza senza culla i lampi dei vecchi contrasti. Non c'era più una cosa giusta, avevi perso il tuo calore ed io la febbre di conquista. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. Delle tue magie e tu della mia intimità, sapevo delle tue bugie, tu delle mie tristi viltà. So che hai avuto degli amanti, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti, ma c'è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. Amarsi con monotonia. Adesso piangi molto dopo, io mi dispero con ritardo, non abbiamo più misteri. Si lascia meno fare al caso, scendiamo a patti con la terra, però è la stessa dolce guerra. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. L'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime.